Histoire du christianisme en France. Jean-Yves Delors et Michel Fauquier.
Bonjour Monsieur Fauquier.
Bonjour Monsieur Delors.
Vous avez parlé la semaine dernière de Ligugé, premier monastère de la Gaule fondé par Saint Martin. Les moines commencent à se multiplier.
Peut-être même d'ailleurs premier monastère d'Occident.
Ah oui.
La question se pose. Bon, évidemment, comme tout n'a pas laissé de traces et que même la date de fondation de Ligugé est approximative. Quand Saint-Martin fonde Ligugé, il ne commence pas par faire un bon acte en belle et due forme qu'il va déposer à la préfecture pour que des siècles plus tard, on retrouve la pièce authentique. Il y a de toute façon, on le sait, des gens qui se retirent déjà dans ce qu'on appelle les déserts, c'est-à-dire des déserts d'hommes.
Finalement, c'est un peu comme les ermites, non ?
C'est la même chose. En fait, à l'origine, c'est la même chose. C'est-à-dire, Ligugé, au départ, c'est un ermitage. Mais ça remonte même un petit peu avant, parce qu'il se trouve que Saint-Martin, après le départ fort contraint de son maître Saint-Hilaire de Poitiers, il va revenir en Hongrie pour voir sa famille, pour tenter de les convertir. Il convertira sa mère, mais pas son père.
Ah oui.
Il va être contraint de partir, vraisemblablement parce que son père doit être encore derrière cette affaire-là. Il a dû le faire chasser. Il va se retrouver en Italie. Or, l'Italie, à cette époque-là, est sous la coupe des Ariens, le nord de l'Italie. Ça se passe très très mal. Il est bastonné, chassé de Milan, où il a voulu, il faut dire, prêcher contre l'arianisme dans une église qui est tenue très fortement par les Ariens. Et il va se retirer dans une île à côté de Gênes, qui s'appelle Gallinara, en 358, où il va vivre avec un ermite qui est déjà présent. Vous voyez ? C'est un peu comme les origines de l'Église. On n'a pas de preuves formelles, matérielles, de date exacte de fondation, mais dans ces années 350, il y a certainement d'autres ermites que cet ermite de Gallinara qui accueille Saint-Martin. Vous voyez ? On sait qu'en 340, Saint-Athanase passe en Italie, lui aussi exilé, pour la même raison d'ailleurs que Saint-Hilaire de Poitiers. Bien. Or, Saint-Athanase va parvenir en Occident avec la première vie d'un ermite, qui est Saint-Antoine, vie de Saint-Antoine, qui va immédiatement être traduite en latin, dans l'année, et qui va être diffusée à travers tout l'Occident, ne serait-ce que parce que Saint-Athanase, envoyé d'abord à Rome, est exilé jusqu'à Trèves. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme le petit Poucet, il laisse des cailloux un peu partout sur le long du chemin. Et le résultat, c'est que très très rapidement, en 2-3 ans, on entend parler de ces gens qui, en Orient, se sont retirés pour mieux suivre le Christ. Et on pense que très, très rapidement, vous avez des individus qui n'ont pas tous laissé des traces, qui vont désirer, eux aussi, suivre l'exemple de Saint-Antoine. Oui. Et Saint-Martin fait partie des tout premiers. Parce que vous voyez, il connaît Saint-Hilaire, qui connaît Saint-Athanase. Tous ces gens-là sont dans le même milieu. Ils luttent tous contre l'arianisme. Saint-Martin fait partie de ces lutteurs. On va même le présenter comme le marteau de l'arianisme, celui qui les frappe comme un marteau. N'est-ce pas ? Et donc, ces gens-là vivent dans un milieu où tout le monde parle de Saint-Antoine, de ses premières fondations en Orient, de ces gens qui se retirent à l'écart.
Mais c'est curieux parce que quand on parle monastère, on pense vie communautaire, règles. C'est pas la même vie que l'ermite, quoi.
Oui, mais il se trouve que la première forme de cénobitisme, c'est Saint Pacôme. On est au début du IVe siècle, à la fin des années 310. Il y a déjà des formes de vie commune. Mais en Orient, les premières formes de vie qu'on peut qualifier globalement de monastiques sont des vies de solitaires qui accueillent quelques disciples qui vivent autour d'eux. Parfois, ces communautés deviennent importantes. On va alors parler de laures, c'est-à-dire en fait des monastères, enfin des premières formes de vie monastique qui fonctionnent sous la forme de rassemblements ponctuels, vraisemblablement par la messe dominicale, par exemple, un certain nombre de fêtes, qui unissent des gens qui vivent selon un mode de vie, on parlera plus tard de règles, plus ou moins communs, une vie qui n'est pas encore cénobitique, c'est-à-dire commune, si vous préférez.
Il n'y a pas encore une liturgie, des heures, des choses comme ça.
C'est très informel au départ. Oui. Avec Saint Pacôme, là par contre, on rentre dans une forme de vie commune où les choses sont réglées. Et très rapidement, vous voyez passer en Occident ces traditions, et très rapidement sont écrites des règles.
Ah oui.
Voilà. Puisque le grand monastère sur lequel nous sommes particulièrement bien informés, c'est le monastère de Lérins.
Oui, près de Marseille, hein. Là, c'est ça.
C'est ça, voilà. Oui. Les îles de Lérins, qui est fondée par Saint Honorat après une expérience en Orient. Or, Saint Honorat revient avec des règles. Et il va instaurer un certain nombre de règles. Et là, pour Lérins, on a des informations qui sont très précises. Donc on a ce qu'on appelle les règles des pères. C'est donc qu'il y a plusieurs règles qui circulent à l'époque, puis va être mise en place une règle de Lérins. Alors que pour Saint-Martin, jusqu'au bout, jamais personne n'a entendu parler de règles de Saint-Martin. Vous voyez, même à Marmoutier, quand il est évêque, on pourrait penser qu'il va formaliser un peu les choses. C'est oublier qu'il se réfugie à Marmoutier parce qu'il n'en peut plus, disons, des obligations épiscopales. Au départ, il logeait, comme tous les évêques, contre l'Église. Hein.
Et c'est dans une atmosphère de pauvreté.
Ah ben, énorme.
Oui, c'est ça. Ouais.
Dénuement, l'ascèse, qui est le caractère le plus évident de la figure de Saint-Martin. Et c'est ça qui est à l'origine, au fond, de sa sainteté et de cette forme de sainteté qui va prendre la place de la sainteté de type martyrial.
Merci beaucoup, Michel Fauquier.